d'essayer d'écouter en tout cas. Et comme Chris l'a dit, le plus important, ça va être à partir de la semaine prochaine. Là, vous êtes encore dans la bulle, mais la semaine prochaine, tout ce que vous avez entendu, il va falloir le mettre en pratique. Et c'est là que le gros challenge va se lancer pour vous. En tout cas, merci des moments que j'ai pu partager avec, peut-être pas chacun, parce que je n'ai peut-être pas pris du temps avec chacun, mais les gens à qui j'ai pu partager, merci, parce que chaque fois que je donne, je reçois aussi en même temps des autres, et ça, c'est vraiment très bon. Lundi, on a vu quoi? Première parole de Jésus? Repentez-vous, la repentance. Ensuite, on a vu? Ok, suivre Jésus et aller fête de toutes les nations des disciples. Et ensuite, hier, on a vu quoi? Plus fort? Ok, le matérialisme. Et combien de maîtres on peut servir? Un seul, ok. Ce matin, on va prendre et on va commencer dans Marc 15. Et on va voir d'abord le contexte et ensuite on verra une parole qui est pour moi peut-être la parole par excellence de Jésus-Christ. Et on va commencer pour planter le décor pour que cette parole ait de la puissance et qu'on puisse vraiment bien la comprendre et la saisir. Tout ce qu'on va lire, vous savez, quand on lit la Bible, il faut essayer de le voir. Parce que des fois, on lit, on va voir ce que Christ a souffert, mais juste le lire, des fois, ça ne nous marque pas. Alors, des fois, on est obligé de regarder des films sur ce que Christ a vécu, comme par exemple la Passion du Christ ou autre. Et là, des fois, on ressort, on est touché, on est silencieux devant un film, alors que la parole de Dieu elle-même devrait déjà nous rendre silencieux et nous faire comprendre ce que Christ a payé. Mais nous avons besoin de voir, des fois, parce que nous ne regardons pas assez bien peut-être les événements de la parole. Et j'aimerais avec vous ce matin, au début je voulais mettre une vidéo pour vous montrer à la fin vraiment ce que Christ a pu endurer, mais en fin de compte je crois que le Seigneur ne voulait pas cette vidéo, il voudrait que chacun de nous ce matin, on voit réellement avec des yeux spirituels ce que Christ a fait pour nous. Chrétien ou pas chrétien ce matin. Prenez avec moi Marc 15. Vous avez peut-être entendu des dizaines et des dizaines et des centaines de fois cette histoire. Mais cette histoire est merveilleuse, il ne faut pas la banaliser. Marc 15, et on va commencer juste versets 16 et 20. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire. Ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» et lui frappait la tête avec un roseau, crachait sur lui, et fléchissant les genoux, il se prosternait devant lui. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements, et l'emmenèrent pour le crucifier. Jésus vient d'être frappé violemment. Pas des petits fouets, des grands coups de fouet, des coups violents, mes amis. Et maintenant, ils lui mettent une couronne d'épines. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, juste de prendre une épine. Tiens, on a Boris qui s'est fait piquer hier par une guêpe. Boris, comment était cette douleur? Terrible, hein? Juste une petite piqûre de guêpe a été terrible. Imaginez une couronne d'épines qui vous prend plein le cerveau, plein la tête comme ça. Et ça ne bouge plus, ça reste fixé comme ça. Mes amis, une douleur terrible. Terrible. Quelle douleur atroce. Vous savez, dans ce contexte-là, on va voir qu'à partir de ce moment-là, quand il sort de cette cour, qu'il vient d'apprendre le verdict du jugement, il sort et là, il va devoir porter sa croix. Et dans la culture, ou dans la loi en tout cas, le coupable devait porter sa croix jusqu'à son lieu d'exécution. Donc il quitte cette cour de Pilate et commence à porter sa croix. Tout ça, il va l'accepter pour toi et pour moi. Cette douleur qu'il est en train de subir tout doucement en sortant de ce prétoire, c'est à cause de toi et à cause de moi. Vous savez, en un seul mot, Jésus aurait pu foudroyer tout le monde. En un seul mot. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé à Gethsémané lorsque la cohorte est arrivée pour demander qui est Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé? Des petits mots qu'on des fois on néglige dans nos lectures personnelles. Mais un petit mot qui a été très puissant et très très fort. Une cohorte, il y avait au moins 500-600 hommes pour l'arrestation d'un seul homme. comme si Jésus était un tueur en série depuis des siècles et des siècles. Ils arrivent à 600 pour arrêter un homme qu'ils ont vu au quotidien. Et voilà ce qui se passe. Où est Jésus ? Ils arrivent, le responsable. Il est où Jésus ? Et Jésus fait comme ça. Moi, je suis. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Toute la cohorte tombe au sol. Relisez l'évangile de Jean. Relisez ces passages-là. En un seul mot, c'est vraiment un moment fort dans la parole de Dieu. Tous y tombent au sol pour montrer que c'était le Dieu Tout-Puissant. Ils se relèvent tous et bien sûr, Jésus se laisse arrêter parce que c'était la prophétie biblique qui devait s'accomplir. Et surtout, il devait payer pour nos péchés, pour te donner la vie éternelle. Mais Jésus avait ce pouvoir à ce moment-là de foudroyer tout le monde sur place. Mais il ne l'a pas fait. Il a accepté d'aller mourir pour mes péchés et pour tes péchés. On continue notre histoire dans toujours Marc 15 et on va aller au verset 29. Donc il est là, en train de porter sa croix et de marcher vers ce lieu où il va devoir être crucifié. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyons. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Il vient de faire cette longue marche. Ce chemin a dû être long pour le Seigneur. Tout le long de ce chemin, les gens le regardaient, l'insultaient. Lui cracher dessus. Cette même foule, ces mêmes gens, une semaine avant, disaient quoi ? Ou en tout cas, peut-être certains disaient « Hosanna ! Hosanna !» Vous voyez comme le cœur de l'homme peut changer rapidement, peut être influencé rapidement. Et la semaine d'après, il lui crache dessus, il insulte pendant qu'il monte à Golgotha. Le cœur de l'homme se révèle dans ces quelques versets. Et j'aime ce verset, j'aime. Il est triste pour moi, mais ils sont en train de lire. Hey, « Hé, toi, t'es en train de dire que t'es Dieu, t'es en train de dire que t'es Jésus, le Messie. Mais descends de la croix si t'es vraiment ce grand Dieu, si tu es notre sauveur que nous attendons depuis des siècles. Descends de la croix. T'es incapable de te sauver, regarde. Arrêtez de croire en cet homme-là, arrêtez. C'est un imposteur. » Sont en train de dire les scribes, les pharisiens. Mais lui, il reste toujours silencieux. Il regarde cette foule qui est en train de l'insulter, de lui cracher dessus. Si tu descends, il dit, nous allons croire. C'est ce qu'il dit dans le passage. Descends que nous voyons et nous allons croire. Le Christ leur a prouvé à multiples reprises qu'il était Dieu, mais leur aveuglement et dureté de cœur ne pouvait saisir la grandeur de ce qui était en train de se passer. Et tu sais quoi ? Ce jour-là, toi et moi, on aurait été sûrement de ceux qui crachent, de ceux qui insultent. Peut-être aujourd'hui, c'est encore notre cas. Ne pas vouloir croire ce que Christ est capable de faire dans ma vie ou dans ta vie, c'est un peu le renier aussi. Lui cracher au visage, l'insulter. Vous savez, la crucifixion, j'ai relevé ça dans un commentaire et dans des recherches aussi. Je vais juste faire un petit bref résumé, parce que on pourrait s'étaler sur ce terme-là. Mais la crucifixion était l'une des plus horribles façons de mettre à mort une personne. C'était vraiment une invention romaine qui était terrible. La crucifixion était tellement répugnante, écoutez ça, qu'on ne mentionnait même pas ce mot dans la société. Les clous était mis au niveau des nerfs, pas dans la main comme on voit des fois ici. Des fois on dit que Jésus montrait ses mains, mais certains pensent que c'était à ce niveau-là. Bon, ça peut être là aussi, on ne sait pas exactement le détail précis, mais c'était vraiment au niveau des nerfs. Donc une douleur terrible où il mettait les clous. Et pareil au niveau des pieds. Il est dit que cette mort était tellement atroce parce que la personne souffrait tellement, elle était un peu, il y avait le système des jambes qui était un peu comme ça, Et ça bloquait toute la... Ce système-là était fait pour que la personne ne meure pas directement, mais suffoque. Et du mal à trouver toujours son souffle. C'était vraiment une mort atroce parce qu'on se voyait mourir. Et tout ça, il a fait pour toi et pour moi. Il fallait que quelqu'un paye le prix du péché pour toute l'humanité. Mais pour cela, il fallait quelqu'un de pur et de sans péché. Quelqu'un sans défaut pour couvrir toute la multitude des péchés de toute l'humanité. Et seul Jésus-Christ pouvait accomplir cela. La souffrance de Jésus-Christ a bien été réelle. Son humanité a bien été présente. Vous savez, il y a des fois des gens qui disent que comme il était Dieu à ce moment-là, c'est plus Jésus. C'est plus... Il n'est plus là. Son esprit est déjà parti. Mais c'est un mensonge. Jésus a vécu ça. Son côté humain était là à 100%. Toute cette souffrance, il a connu, il a senti. Pourquoi lorsqu'il pleure, il ressent ses larmes? Et pourquoi au moment de la souffrance, quelques semaines après, il ne ressentirait plus ça? C'est illogique et ce n'est pas défendable bibliquement, cette doctrine ou cette théorie-là. Jésus était 100% humain aussi à ce moment-là. Et il a ressenti toutes ses douleurs. Et c'est pour ça qu'il peut nous comprendre. C'est pour ça que toute souffrance que tu portes ce matin en toi, Jésus-Christ peut le comprendre parce qu'il a souffert terriblement. Il a été abandonné. Il a été insulté. Il a été crucifié. Prenez avec moi 1 Pierre 2. Lui, innocent pour des coupables. 1 Pierre 2, versets 21 à 25. Tiens, pour ceux qui... Vous savez, on est dans une société où on aime bien rendre la justice pour la justice. Mais regardez ce que... Je vais même lire un peu avant, même le verset peut-être 21, parce que c'est un passage qui est très fort. Pour nous, les Français, on aime toujours se plaindre, toujours râler, toujours réclamer justice, justice, justice. Mais le raisonnement biblique et du Seigneur est complètement différent. À partir du verset 19, je vais peut-être lire. Car... Ok, 1 Pierre chapitre 2, verset 19. « Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Si tu as fait une faute et que tu subis les conséquences de tes fautes, c'est normal. Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. » Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Verset 22. Lui, qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui, qui injuriait, ne rendait point d'injures, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Et le jugement de Dieu va arriver un jour ou l'autre. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, on l'a vu hier soir, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Quel amour pour toi et pour moi. Ce Dieu d'amour t'aime. Il t'aime. Cet amour n'est impossible d'être mesuré avec un amour humain. Il t'aime. Mais mes amis, le sommet de l'amour va être dans le verset que nous allons voir maintenant. Cette parole que nous allons voir maintenant est pour moi incompréhensible humainement. Prenez avec moi Luc 23. Martin Luther King a fait un message merveilleux sur ce passage. Sur ces trois vers, sur ce verset, ces 4-5 paroles que nous allons voir, sur la puissance de l'amour de Dieu à ce moment-là. Si un jour vous pouvez trouver ce livre, La force d'aimer de Martin Luther King, et de lire ce message qui a été écrit par cet homme-là, en plein justement problème racial, et ce verset-là vraiment lui-même a transformé sa vie, l'a aidé à voir l'autre différemment, et toutes les souffrances que cet homme a vécues aussi. Vraiment, si vous pouvez vous procurer ce livre-là et lire les messages de cet homme, c'était vraiment fort. La force d'aimer malgré tout le mal qu'on a pu lui faire. Luc, hop, je vous dis de prendre, mais moi je ne le prends pas. Luc 23, je vous ai dit 33. Hein. Donc toujours dans cette continuité, on sort du prétoire, il a monté, il a porté sa croix, il est arrivé au lieu de Golgotha, tout le monde est en train de l'insulter, de se moquer de lui, et là voilà ce qui se passe, verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne ou Golgotha, ils crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Verset 34. Écoutez ou fixez vos yeux sur ce verset. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils viennent de le crucifier. Il est en pleine agonie. Mais c'est le moment le plus terrible de toute la vie de Jésus-Christ qui va être là, à regarder ses bourreaux, les yeux dans les yeux, et à leur dire, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Qui serait capable de regarder son bourreau, celui qui est en train de lui faire les pires crasses, et de lui dire, « Pardon, pardonne-leur. » Il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Il a attendu le moment le plus dur pour montrer la puissance de son amour. Oh, il aurait pu dire ces paroles bien avant. Mais il a choisi ce moment le plus terrible pour dire, Père, pardonne-leur. Alors qu'il venait d'être humilié au plus bas par des crachats et des insultes, alors que les mains perverses de sa créature osent le crucifier, alors Jésus dit, Père, pardonne-leur. Vous savez, il aurait pu dire, Père, tire vengeance d'eux. Ou encore, Père, déchaîne ta colère sur eux et détruis-les. Il aurait pu faire cela. Mais rien de tout cela, même pas la pensée de cela. Malgré la souffrance terrible qu'il est en train de subir, il les regarde et demande à Dieu de leur faire grâce. Et c'est ce que le Seigneur fait encore ce matin avec toi. Toi, tu fais partie de ces bourreaux. Ne crois pas que parce que tu n'y étais pas il y a 2000 ans, tu ne fais pas partie de ces bourreaux-là. Tu fais partie de ces bourreaux-là à cause de ton péché. Et le Seigneur te regarde pareillement, en agonie, en train de souffrir pour toi. Et dire, Père, pardonne-le. Pardonne-le. Christ est en train de nous montrer qu'il joint action et parole. Quand je vous ai dit d'aimer, vous vous souvenez, il parle à ses disciples dans les passages précédents des évangiles. Il dit, aimez votre prochain, mais il va aller encore plus loin. Aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vont vous haïr. Et là, tout le monde dit, bon, c'est Jésus, il le dit de façon facile, c'est que de la théorie. Mais là, maintenant, qu'il vient d'être crucifié, insulté, frappé, il met en pratique ce qu'il a dit précédemment. Aimez vos ennemis. Oh, c'est dur, mes amis, n'est-ce pas? C'est dur. Vous savez, la tragédie de nos vies chrétiennes, c'est quoi? C'est ce décalage entre notre théorie biblique et notre mise en pratique. Ça, c'est un gros problème. On a beaucoup de connaissances bibliques intellectuellement, mais pratiquement, il est là le problème. Et notamment au niveau du pardon. Notamment au niveau du pardon. Aimer les gens qui vous aiment, pardon, très facile. Tout le monde sait faire ça. Mais celui qui vous blesse et qui vous détruit, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose, mes amis. Martin Luther King encore a dit cela sur l'amour de notre prochain. Trop souvent, nos vies se caractérisent par la vigueur du credo et l'anémie de l'action. Dieu nous aime et nous pardonne, mais toi, y a-t-il quelqu'un que nous n'aimons pas, que nous ne pardonnons pas dans notre entourage? Y a quelqu'un, sûrement, que tu n'arrives pas à pardonner ou que tu n'as peut-être pas pardonné et que tu n'aimes pas. Peut-être, entre guillemets, à juste cause, d'une façon humaine. Ne laisse pas cette haine, amertume, rancune de te détruire. Vous savez, le pardon est une puissance qui libère. Le pardon peut détruire des vies pendant des années et des années. La rancune, pardon. La rancune, la haine, la colère peut détruire des vies pendant des années et des années. Mais le pardon peut tout libérer en une fraction de seconde. C'est incroyable. Combien de vies j'ai vues, et notamment dans ma propre famille. Vous savez, je partageais ça à une personne ici. J'ai eu trois sœurs. On est cinq enfants, je suis l'aîné. J'ai trois sœurs qui ont eu des enfants. Ah. Elles avaient à peine 17 ans, dont une qui a à peine 15 ans et qui est enceinte en ce moment et qui va accoucher ce mois-ci. Et pour un grand frère, c'est très dur, surtout un grand frère qui est dans le ministère. Sur ces trois sœurs, j'en ai une qui a eu trois enfants de trois pères différents et qui a à peine une vingtaine d'années aujourd'hui. Et pour un grand frère, c'est très dur. Mais vous savez, en janvier, cette même sœur qui a eu trois enfants de trois pères différents a compris réellement le pardon de Dieu. Et elle a demandé pardon à Dieu. Et vraiment, elle avait une haine un peu contre la vie. Pourquoi ces hommes-là... Elle avait fait elle-même des propres erreurs, je pense, au niveau de la sexualité. Mais elle était tellement attachée à ces hommes-là qu'elle croyait que c'était le bon à chaque fois. Et chaque fois, il est parti. Il a laissé. Même s'il y en a un, je pense, qui pourrait revenir pour l'aider. Mais il faut qu'il se convertisse. Parce que ma sœur a donné sa vie à Jésus-Christ en janvier. Et le pardon l'a libérée. Et j'ai eu le privilège de la baptiser il y a moins de trois semaines. Et c'est vraiment merveilleux. Une autre de mes sœurs, pareil, qui elle aussi a vécu une chose difficile, a eu un enfant jeune. Elle aussi a compris le pardon de Dieu. Elle était envahie par toutes ces choses-là et le pardon de Dieu l'a libérée. Et là, je vous parle juste de cas qui me touchent. Mais d'autres personnes que je connais dans mon église ont été libérées par la puissance de Dieu, par le pardon. Des choses qu'ils avaient besoin d'accepter, de demander pardon à Dieu. Pas forcément que de leur propre péché, mais des choses ou de personnes qui les avaient détruites. Un autre jeune homme, celui que je vous parlais, ou un jeune homme que je connais, en tout cas, je veux dire, qui lui a été violé à l'âge de 12 ou 13 ans. Comment pardonner ça? C'est impardonnable. Humainement, c'est impardonnable, ces choses-là. Mais ce jeune homme a fait cette démarche-là. Et sa vie est en train de se construire aujourd'hui, jusqu'à ce jour qu'il n'avait pas voulu demander pardon. Pas pardon de dire que c'était lui le responsable, mais il avait besoin de demander pardon pour être libéré, parce que ce poids, cette haine qu'il avait en lui contre cette personne-là, le détruisait et l'empêchait de se construire. Et il y a peut-être quelque chose dans ta vie ce matin comme ça, une haine en toi contre quelqu'un que tu n'arrives pas à pardonner ou que tu n'as pas demandé pardon. Et ça peut te bloquer pour ta croissance spirituelle. Le pardon est une puissance qui libère. Ce Dieu d'amour que je sers est aussi un Dieu de justice. Et tous ces gens qui vous ont peut-être fait du mal, qui vous ont fait souffrir, et qui vous ont peut-être, eux, jamais demandé pardon, devront rendre des comptes devant ce Dieu de justice. Mais vous, pour vous libérer de toute cette haine, vous avez besoin aussi de pardonner. Pardonne comme Christ l'a fait pour toi. Vous savez, le pardon déstabilise nos adversaires. Pardon. Je vous raconte cette histoire d'un soldat communiste. C'était un homme qui était là, chrétien, engagé dans sa foi, et puis un soldat communiste, qui était en train de le frapper. Bah, qui le frappait. Il était heureux. Il était heureux, cet homme communiste, parce qu'il disait, j'ai tout le pouvoir sur toi. C'est moi le maître de toi. Et le chrétien, il disait rien, il sourit aussi. Il lui dit, mais qu'est-ce qui te fait sourire? Et puis il disait rien, il continue à le frapper. Il lui dit, j'ai le pouvoir sur toi. Il lui dit, non, t'as aucun pouvoir. Il dit, si, toi t'es esclave. Il dit, non, moi je suis libre, toi tu es esclave. Et là il était interpellé, il s'arrête, il dit, qu'est-ce que t'es en train de dire? Moi, j'ai le pouvoir et la liberté de t'aimer malgré que tu me tapes et que tu me fais du mal, parce que je t'aime. Le soldat ne savait plus quoi faire. Il était déstabilisé. Mes amis, le pardon et l'amour face à des gens qui nous veulent du mal les déstabilisent. Allez voir quelqu'un qui vous a fait souffrir et dites-lui, je te pardonne de ce que tu m'as fait. Je peux vous dire, vous allez avoir une personne déstabilisée. Déstabilisée. Mais l'amour de Dieu peut vous aider à faire cela. Combien de gens que je connais, chrétiens et non chrétiens, qui ont été rongés par la haine et la rancune, comme je vous ai dit tout à l'heure. Combien de foyers ont été brisés à cause du non-pardon. Combien de frères et sœurs ne se parlent plus aujourd'hui à cause du non-pardon. Combien d'églises ont été divisées à cause du non-pardon. Le pardon engage celui qui a fait souffrir, mais celui qui a souffert aussi. Logiquement, c'est celui qui fait souffrir, mais celui qui en a souffert a besoin de pardonner l'autre pour soigner sa blessure, qui peut être profonde parfois, et la guérison peut prendre du temps. Mes amis, je vous encourage à vivre un pardon authentique qui va te libérer de ce poids terrible. Peut-être aujourd'hui tu n'as jamais vécu encore quelque chose de terrible et le pardon tu ne l'as pas encore expérimenté. Mais retiens ce message, retiens ces passages bibliques qui vont peut-être t'aider un jour. Pour ceux peut-être qui le vivent aujourd'hui, priez. Priez et demandez à Dieu de vous aider. Parce qu'humainement, c'est impossible de pardonner quelqu'un qui nous a fait tellement souffrir. C'est impossible humainement. Et moi, le premier, on ferait quelque chose de terrible à mes enfants, par exemple. Humainement, je ne pourrais pas pardonner. Mais par la grâce de Dieu, par la puissance de son esprit, par ma vie, par sa vie qui est en moi, je crois que c'est possible. Et c'est ça qui fait toute la différence avec ce monde. Dieu t'aime. Tu as beaucoup de valeur à ses yeux. C'est pourquoi il veut que tu pardonnes comme lui, il t'a pardonné. On va baisser la tête et je vais vous lire un passage biblique encore. Baissez tous la tête. Ésaïe 53. Pendant que vous avez les yeux fermés, les têtes baissées, écoutez bien ce passage. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. On est en train de parler de Jésus-Christ. C'est une prophétie biblique qui est en train de parler du Seigneur. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'ait point commis de violence, qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, et il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Prions. Seigneur, merci encore de ta parole qui est merveilleuse.